Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Après la BCE la semaine dernière, le rendez-vous du FOMC de la Fed sera particulièrement attendu ce mercredi. La Réserve fédérale américaine devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base, une première depuis 10 ans. Une accommodation qui est perçue comme déjà flagrante, comme l'expliquait Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, invité sur notre antenne il y a quelques jours.
C'est un fait que la Banque centrale américaine pense que le ralentissement de l'économie américaine est possible dans une perspective de relativement moyen terme. Et donc, ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enclenchement de la phase récessive du cycle. Je ne dissimule pas que je pense moi-même qu'ils sont excessivement accommodants, en effet, dans cette phase actuelle du cycle. Et au total, quand je regarde le niveau de l'inflation américaine, je ne vois pas, si vous voulez, qu'on ait un problème de matérialisation du risque de déflation réellement dangereux. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai que le marché anticipe complètement, avec de bonnes raisons, parce que Jay Powell, le président de la Banque centrale américaine, a dit en effet qu'une baisse des taux était possible. Donc il a préannoncé en quelque sorte assez largement ce qui pourrait se faire. Je ne veux pas là non plus anticiper sur l'Open Market Committee et sa réunion. On va voir ce qu'ils vont faire. Au total, je pense qu'en effet, à ce stade de l'économie américaine, l'accommodation de la Banque centrale est flagrante.
Les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis reprennent. Les négociateurs américains se retrouveront demain et mercredi à Shanghai. Rappelons qu'il s'agit des premiers face-à-face depuis l'échec des négociations entre Donald Trump et Xi Jinping en mai dernier. Le président américain avait alors choisi de lourdement taxer les importations de nombreux produits chinois. La reprise des pourparlers va donc dans la bonne direction, même si le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a précisé que de nombreux problèmes devraient être résolu. Après l'adoption récemment de la taxe GAFA en France, Donald Trump menace de contre-attaquer en taxant le vin français. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a répondu samedi à Donald Trump. Nous souhaitons travailler étroitement avec nos amis américains, une taxation universelle des activités digitales. L'objectif est de parvenir à un accord d'ici le G7 des chefs d'État qui se déroulera à Biarritz fin août. Les décrets d'application de la réforme de l'assurance chômage ont été publiés hier au journal officiel. Le MEDEF a fait savoir qu'il était contre le bonus-malus que le gouvernement veut mettre en place. L'État entend ainsi augmenter les cotisations des employeurs qui ont un recours abusif au contrat court. Les explications de Caroline Morisseau.
Le patronat cherche encore la solution pour tenter d'enterrer ou du moins de retarder la mise en œuvre du dispositif. Le gouvernement a pourtant revu ses ambitions à la baisse. Le bonus-malus ne s'appliquera qu'à partir de 2021 et ne concernera que 7 secteurs comme le transport ou l'agroalimentaire. Mais le patronat y voit précisément un argument pour contre-attaquer. Il pourrait invoquer une rupture d'égalité, une stratégie qui pourrait s'avérer contre-productive si le gouvernement décidait du coup de l'élargir à l'ensemble des secteurs. D'autres arguments pourraient donc être invoqués, comme la complexité du dispositif. Le bonus-malus s'appliquera à toutes les ruptures de contrat, intérim, CDD ou CDI, qui donnent lieu derrière à des indemnités par Pôle emploi. Plus une entreprise coûtera cher à l'assurance chômage, plus elle paiera de cotisations. Sauf que, souligne le patronat, l'employeur ne sait pas à l'avance si son salarié va ou non s'inscrire à Pôle emploi. Les entreprises ne pourront donc pas anticiper leur bonus-malus et devront attendre que l'administration leur transmettent après coup le taux à appliquer. Une usine à gaz que dénonce le patronat.
Et direction l'Italie, Rome donne finalement son feu vert au TGV Lyon-Turin en dépit de désaccords au sein de la coalition gouvernementale italienne. Renoncer lui aurait coûté plusieurs milliards d'euros. Le coût du chantier est estimé à 20 milliards d'euros, financé à 35% par l'Italie, 25% par la France, le reste par l'Union européenne. C'est un deal qui pourrait donner naissance à un géant mondial dans la pharmacie, dans le secteur des médicaments à moindre coût. Selon le Wall Street Journal, Pfizer est en pourparlers avec Mylan, le fabricant de médicaments génériques, pour fusionner son activité de médicaments non brevetés. On termine ce journal avec la Coupe du Monde de jeux vidéo Fortnite qui s'est terminée hier soir à New York. Les joueurs se sont affrontés pendant 3 jours dans des épreuves dont les gains avoisinent les 30 millions d'euros. Un sujet de Simon Tenenbaum.
Un Américain de 16 ans, Kyle Giersdorf, alias Booga, est devenu ce week-end le premier champion du monde de Fortnite. Il empoche 3 millions de dollars, soit autant que le vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem de tennis. La compétition était d'ailleurs organisée dans le stade Arthur Ashe à New York, avec ses 23 000 places, là où est habituellement disputé l'US Open. Epic Games, l'éditeur de Fortnite, a frappé fort pour cette première Coupe du Monde. Au total, 30 millions de dollars ont été distribués aux 200 joueurs, une dizaine sont repartis avec un chèque de plus d'un million. Il faut dire que Fortnite, avec ses 250 millions d'adeptes dans le monde, attire les foules. Au moins 9 millions de personnes ont regardé la finale hier soir, rien que sur YouTube. Avec cette offensive dans l'e-sport, Epic Games espère entretenir la popularité de son jeu phénomène, qui génère environ 200 millions de dollars de revenus tous les mois.
Il est midi 8, vous êtes sur BFM Business tout de suite, le retour de l'orage.
Merci Damien, on vous retrouve à midi et demi pour un nouveau point sur l'information.